Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
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 Elle.
Et lui.
Elle.
Lui.
Elle.
Lui. D'actuel.
Et lui.
Bonjour et bienvenue sur 48FM pour une toute nouvelle émission qui s'appelle Actu.
Elle.
Et lui. Voilà, donc trois personnes autour de la table pour vous faire partager quelques actualités de plutôt légères, plutôt sympathiques, quelques nouveautés culturelles, médiatiques, de saison, enfin voilà, un petit peu quelques petites choses qui se passent qu'on a envie de vous faire partager dans cette émission avec donc autour de moi. Aurélie et Anne-Marie.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Voilà, qui seront là donc de façon régulière dans cette émission. Alors au sommaire aujourd'hui, nous commencerons avec Aurélie et le Trône de Fer, donc un livre et enfin une série d'ouvrages et une série télévisée. Voilà. Ensuite, nous parlerons justement, on fera le lien avec la télévision et avec les nouveautés de la télé que en cette rentrée de début d'année que j'évoquerai. Et puis, on terminera avec Anne-Marie et on parlera presse féminine, Saint-Valentin et un peu de régime parce que c'est quand même après les fêtes de saison.
Hélas.
Donc, première partie de cette émission actuelle et lui. Donc autour du Trône de Fer avec Aurélie et déjà est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce roman qu'est-ce que ça raconte, quelle est l'histoire de ce roman?
Alors je vais vous lire le petit pitch de la série. Donc le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus terrible hiver. Par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont permis et seuls les plus forts ou les plus retors s'en sortiront indemnes.
Ça a l'air quand même un petit peu sombre. Et alors pourquoi, qu'est-ce qui t'attire finalement dans cette histoire?
Mais avant toute chose, il faut que je vous dise que j'aime la fantaisie. Alors pas la fantaisie IE, mais le genre littéraire. Fantasy avec un Y, dont les œuvres sont en général des aventures héroïques dans des mondes imaginaires avec un contexte plutôt antique, médiéval ou proto-médiéval. Pour vous donner un exemple que tout le monde connaît, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Mais l'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui, Le Trône de Fer ou Jeu des Trônes si on voulait avoir une traduction littérale de l'anglais, c'est le titre du premier tome de la saga. Cette saga s'appelle en anglais, la chanson de la glace et du feu, puisque vous verrez, c'est la rencontre.
La chanson de la glace et du feu, ça fait pas très anglais comme.
Oui, c'est parce que je voulais vous éviter mon très joli accent anglais, donc c'était The Son of Ice and Fire.
Très bien mon accent,
ça va alors. Donc il s'agit d'une série qui en français se compose de 15 tomes, de 6 en anglais, donc de l'auteur qui s'appelle George R.R. Martin.
C'est quoi les deux RR?
Je ne sais pas. J'ai mal fait mes devoirs. Je n'ai pas cherché. Ils aiment bien tous avoir leurs petites initiales.
Ouais, ça, c'est très américain. C'est tout l'historique de l'affiliation.
Voilà. Alors, l'histoire, quand même, que je vous en dise un peu plus, se situe dans un univers médiéval où les saisons peuvent durer des années. Donc, des très longs étés, des très longs hivers, et où la magie et les créatures légendaires, comme les dragons, par exemple, ont existé, mais sont supposées avoir disparu. Trois intrigues principales s'entremêlent. Tout d'abord, plusieurs des maisons nobles rivalisent pour l'obtention du trône royal de Westeros, c'est le nom du continent imaginaire. Tandis que dans les contrées glacées du nord du royaume, une race de créatures supposées appartenir aux légendes, les autres d'ailleurs, ils n'ont même pas de nom, se réveille et vient à l'assaut du continent. Ensuite, sur l'orient du continent, la dernière héritière de la dynastie royale de Westeros, renversé 15 ans auparavant, cherche à revenir et reconquérir le trône.
C'est dense. Hein. Et qu'est-ce que tu en penses, justement, Aurélie, de ce livre?
Alors, c'est un des livres qui m'a vraiment marqué. On a des personnages qui sont à la fois tangibles, des situations un peu retorses, des personnages rudes, des protagonistes qui sont vraiment fouillés, travaillés de manière réaliste. Ils sont complexes, ils ont la psychologie des êtres vivants et leur fragilité. Ils sont vraiment très, très intéressants.
Et qu'est-ce qui a influencé l'auteur pour écrire tous ces tomes?
Eh bien, en fait, il parle évidemment de Tolkien. Là, on y retrouve. Mais il évoque aussi une autre série de romans qui, moi, m'avait beaucoup plu. C'était Les Rois Maudits de Maurice Druon de l'Académie française, qui est vraiment à l'inspiration avec tous ces rois, ces reines, ces combats, ces intrigues.
Alors, qu'est-ce qui change dans ce roman par rapport aux autres aventures d'Heroic Fantasy? On en a évoqué tout à l'heure d'autres.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un cycle qui va vraiment nous permettre de nous éloigner des clichés du récit initiatique du jeune adulte qui lutte contre l'adversité pour enfin réaliser sa quête. On a très, très souvent, on retrouve ce fil conducteur, ce qui fait que, bon, on s'en lasse assez souvent. Et puis, l'autre spécificité de l'écriture de Martin, c'est son style. En fait, chaque chapitre porte le nom d'un personnage et est présenté selon un point de vue narratif interne à la troisième personne. C'est-à-dire que à chaque fois, le personnage, en fait, donc le personnage POV, c'est l'acronyme de point of view, donc de point de vue, qui sont 8 au début, va raconter le récit va être raconté de son point de vue. Donc forcément, on s'y attache, on se dit ah c'est lui le gentil parce que c'est souvent ce qu'on cherche, alors que pas forcément.
Mais c'est pas raconté en écrivant au jeu, c'est-à-dire
non,
voilà,
d'accord,
c'est par son point de vue, mais quand même
mais à la troisième personne.
Mais un récit à la troisième personne.
Mais à la troisième personne, ouais. Du coup, ça donne au lecteur une vision globale qui est présentée donc selon des points de vue qui s'opposent, qui ont leur propre rythme. Le même personnage va être le héros du premier chapitre, mais ensuite va être le méchant du chapitre suivant. Et ça nous permet d'éviter en fait le manichéisme de la fantaisie traditionnelle qu'on retrouve toujours. Les personnages sont tout blancs, tout noirs. Là, on a vraiment des nuances de gris, bah, presque comme dans la vie normale. Ils ont des choix qui sont parfois difficiles à faire, avec des valeurs qui défendent l'amour, la compassion, l'honneur, le devoir. Et souvent, malheureusement, c'est ceux qui font les choix que nous, on trouverait les plus nobles, qui le paye de leur vie.
Alors, tu as l'air vraiment convaincu par tout ça. Est-ce que c'est le bouquin emporté sur une île déserte? Enfin, toute la saga peut-être même. Enfin, ça fait peut-être un peu beaucoup. Pour
ça fait lourd quand même dans la valise, les 15 tomes.
pour l'île déserte, ouais, c'est peut-être...
Et voilà, oh. En fait, vous avez mis le doigt sur le souci. Le bémol, c'est effectivement l'édition et la traduction française. En fait, l'éditeur Pygmalion avait découpé le premier tome en plusieurs parties. Donc, le Trône de Fer, qui finalement donne son titre à toute la saga, et le Donjon Rouge. Il trouvait que c'était trop gros, en fait. Et du coup, cette habitude de découper chaque volume en plusieurs tomes a persisté. En fait, il n'y a que 5 tomes initiaux dans la série en anglais, et nous, on en a 15, quoi. Donc, effectivement, ça finit par faire beaucoup. Et puis, l'autre petit reproche, c'est que du coup, il y a un certain nombre de documents que l'auteur avait mis, des plans, des cartes, des généalogies, des choses comme ça, qui ont été éliminés.
Et est-ce qu'il faut commencer par le début de la saga pour comprendre, ou est-ce qu'on peut attaquer par le douzième tome?
Alors, comme on a à chaque fois le point de vue du personnage, effectivement, je pense qu'on pourrait imaginer commencer par un tome plus en avant, quoi, pourquoi pas le 10 ou le 12, mais en même temps, on perd vraiment la saveur de la complexité, parce que c'est un monde en soi.
Alors, est-ce que ça marche d'un point de vue économique, cette série, enfin, cette littérature, et enfin, voilà, est-ce que c'est une publication confidentielle ou plutôt... très partagé, ou beaucoup de gens
Eh bien,
suivent.
Effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai succès commercial, mais qui présente la particularité de s'être construit plutôt par le bouche à oreille. Aujourd'hui, chaque volume réalise de meilleures ventes que le précédent. Donc, ça veut dire que c'est une saga qui a vraiment conquis son public. En 98, donc, quand le premier tome est sorti, ça n'a pas du tout été un best-seller. Au contraire, Pygmalion s'est posé la question d'arrêter vraiment, alors qu'ensuite, les autres, maintenant, sont vraiment dans les premiers, au top 10 des ventes.
Ça veut dire qu'ils ont publié à peu près un par an?
Non, un peu moins.
Un peu moins, oui.
Un peu moins, oui.
Alors, quelle est aujourd'hui l'actualité de cette saga?
Alors, ben justement, l'actu, je vous en parle parce que la troisième saison de la série télévisée va sortir fin mars aux États-Unis, et que actuellement, pour ceux qui voudraient le prendre du côté télé plutôt que du côté livre, la saison 1 est diffusée sur Canal+. Et comme une fois n'est pas coutume, c'est bon à souligner, c'est une adaptation qui est très fidèle et de très grande qualité. C'est assez, voilà, c'est assez difficile d'expliquer ce qu'on ressent quand on lit cette saga, mais quand on rentre dedans, on est vraiment emballé et du coup, c'est une lecture quoi qui chamboule, on n'en sort pas indemne.
Alors moi j'avais juste une question qui paraît peut-être un peu idiote, mais pourquoi ce titre Trône de Fer ?
Alors le Trône de Fer, c'est donc tout d'un point de vue pratique, le titre du tome 1 qui a été francisé plus ou moins bien, parce que ça devrait plutôt être Jeu des Trônes, mais le raccourci a fait qu'ils ont utilisé le terme de Trône de Fer et ça s'est étendu donc à toute la saga. Et puis sinon le Trône de Fer dans la série, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le trône, le siège, hein, le fauteuil du roi des sept couronnes. Il a été forgé à partir des épées, donc c'est pas un siège très confortable, hein. Il a été forgé à partir des épées des combattants de la grande bataille qui a renversé la grande bataille du début qui s'appelle la bataille de la plaine du Trident, qui a permis le renversement en fait de la première dynastie des Targaryens et qui les a remplacés par la deuxième dynastie, celle dont on suit l'histoire, les Baratheons.
Mais c'est quand même très complexe. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé à regarder la première saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. C'est très dense, hein, c'est un rythme très soutenu. J'ai cru comprendre et voir surtout qu'il y avait un acteur. C'était l'acteur du Seigneur des Anneaux. Je sais pas comment il s'appelle. Celui qui a des cheveux longs, c'est le même. Et j'ai l'impression du coup qu'il a le même personnage. C'est le même rôle. C'est un peu dommage peut-être, non?
Alors c'est Sean Bean, effectivement, c'est le Boromir du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est un acteur britannique qui du coup a été choisi aussi parce qu'il a justement cet accent britannique qui renvoie pour les Américains un côté un peu ancien de la langue anglaise, et du coup on le connaît souvent, on l'a vu souvent dans d'autres films. J'ai d'ailleurs une petite anecdote pour toi qui les aime bien. Il a une petite cicatrice au niveau de l'œil justement qui renforce son côté
sexy.
Ouais, et alors tu sais à qui il a droit? Harrison Ford.
Non.
Si, c'est lui qui lui a collé un pain dans Jeux de guerre. Voilà.
Le polisson.
C'était l'anecdote du jour.
Et bien moi c'est vrai que c'est pas trop mon univers l'heroic fantasy, à la fois en film, à la fois en lecture, mais j'ai l'impression que quand on y rentre dedans, on est à fond dedans finalement.
Et en fait, ça offre la complexité du monde, c'est-à-dire que on a comme dans la vraie vie, des sentiments complexes, les choses sont jamais si simples. Ils sont capables de créer quand ils écrivent un univers complet et dont on apprend finalement les règles, les codes, et voilà, et du coup qui est extrêmement complexe. Donc oui, effectivement, on s'immerge dans un monde, dans une sorte. Enfin, pour moi, quand je me mets dans ces bouquins qui sont en plus assez gros, donc qui prennent assez longtemps à lire, c'est vraiment on s'installe dans un petit cocon, dans un petit monde hors du temps.
Et alors Anne-Marie, toi qui as regardé un peu les épisodes de la série, ça te donne envie de continuer à regarder ou pas?
Alors, si j'avais arrêté au début, c'est parce que je sortais en fait d'une série Spartacus que j'aimais énormément, avec beaucoup beaucoup de scènes sanglantes, etc. Et c'est vrai que le passage Trône de Fer a été un peu compliqué. Il fallait que je fasse le deuil de Spartacus. Donc j'ai regardé quelques épisodes et puis je me suis arrêtée effectivement comme ça. Et puis maintenant que Aurélie vient de nous parler du livre, effectivement, ça me donne envie de m'y replonger. Donc pourquoi pas
Plutôt te replonger dans la série ou plutôt te replonger
dans la série, dans, puisque ouais, moi j'ai pas commencé le livre. En plus, vu les 15 tomes, je me dis flûte. C'est peut-être plus sympa de le voir en film.
Oui, c'est peut-être plus économique aussi.
Exact.
Voilà, donc c'était on a fait le tour de ce sujet, le trône de fer, et on va tourner une petite page, musicale. On va se faire une petite pause musicale, et peut-être qu'est-ce que tu nous proposes Aurélie pour cette page musicale?
Alors pour rester dans l'ambiance, je vais vous proposer U2, parce que je trouve que ça va bien avec la saga. L'Irlande, tout ça.
Ouais, donc
ça marche.
Tu lis avec YouTube.
Ouais, ça peut marcher.
Ok. Bon, on se retrouve tout de suite après. Actu,
elle
et lui.
Et voici la deuxième partie de l'émission Actuelle et lui sur 48FM. Et justement, lui, c'est Guillaume. Et alors, Guillaume, tu vas nous parler de télévision, si je crois.
Oui, oui, c'est ça. On va même parler des changements un petit peu dans les grilles de nos chaînes préférées en cette rentrée. Et on va commencer avec le nouvel Access de France 2, c'est-à-dire ce qui est juste avant la grande messe des grandes chaînes, c'est-à-dire le journal. Télé, et donc France 2 avait un problème, c'est que ses audiences de cet access de ce temps avant étaient très faibles, ce qui est un enjeu très fort pour eux, puisque c'est le dernier moment où il y a de la pub avant 20h, et donc puisqu'après 20h la pub est interdite sur le service public, et donc il y avait un très très long tunnel de pub, donc 20 minutes à peu près de pub avec la météo, avec certains programmes courts qui étaient un petit peu au milieu de tout ça, mais c'était particulièrement long et ça faisait fuir beaucoup de gens.
Ça donne envie après d'aller peut-être sur d'autres chaînes.
Voilà, ça donne envie d'aller sur d'autres chaînes et après on revient pas forcément sur le journal, ce qui est dommage parce que c'est aussi ce créneau de pub et le journal sont des rendez-vous très forts pour une chaîne généraliste comme France 2. Et donc ils ont décidé de créer un nouvel access en faisant réintervenir une émission qui était plutôt pendant l'été, qui s'appelle Mot de passe, présentée par Patrick Sabatier. Et donc voilà, Mot de passe est maintenant à 19h. À 19h25, on retrouve la météo. Et à partir de 19h30, on retrouve N'oubliez pas les paroles avec une nouvelle règle du jeu. Donc c'est un petit peu différent. Maintenant, il y a un maestro qui a un micro d'argent, qu'il faut au départ il y a un combat, enfin bon c'est, il gagne des points, enfin c'est un petit peu compliqué et alors il y a beaucoup de gens qui critiquent cette nouvelle version parce que notamment ils chantent plus les chansons depuis le début et donc en fait il y a deux chanteurs dans l'orchestre qui lancent la chanson, mais ça doit être particulièrement difficile pour les gens qui chantent,
les déstabilise quelque part.
Parce que finalement, ils savent plus où ils en sont trop dans la chanson. Ça impose qu'ils soient vraiment très très bons sur les paroles. Alors après, toujours dans cette case de l'Access Prime Time, mais pour le week-end, c'est le Hondar Show qui s'arrête. Le Hondar Show, c'était l'émission avec les meilleurs humoristes découverts dans l'émission On ne demande qu'à en rire qui a lieu à 18h la semaine. Hein, c'est un peu compliqué. Et ça, c'était à 19h le samedi. Donc il y avait eu deux saisons avec certaines découvertes qui sont maintenant... Bien affirmé.
Oui, enfin, humoriste, c'est peut-être pas le terme vraiment, le meilleur terme employé, parce que j'ai regardé quelques fois, honnêtement, c'est pas du très haut niveau non plus, quoi.
Ouais, ceux qui ont fait deux saisons, c'est quand même, il y a des choses de relativement bon niveau, hein, donc bon, après, voilà, on peut ne pas forcément apprécier, mais bon, voilà, il y a des trucs qui tiennent bien debout surtout dans les ceux qui sont sortis des deux saisons, mais c'est vrai que cette émission sans présentateur et avec une logique de jeu complètement différente donc sur le Hondar Show était pas forcément pas forcément très très bien marché. Donc bon bah on retrouvera ces humoristes sur des prime time événementiels au cours du premier trimestre. Et donc c'est remplacé par une heure de mot de passe. Donc la semaine c'est une demi-heure de mot de passe, donc avec une seule partie, et le samedi une heure. Ça c'est un petit peu bizarre. Je pense que il faudra que France 2 réfléchisse à avoir un nouveau format pour le samedi.
Il faut vraiment un programme sous les yeux pour s'y retrouver quand même.
Ah ouais, donc c'est super compliqué.
Faut avoir un emploi du temps de ministre.
C'est ça, c'est ça. Voilà.
Et alors sinon au niveau des séries, est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas?
Ah bah des nouveautés, oui, il y en a. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure avec Aurélie, mais
des séries plutôt hebdomadaires sur les chaînes hertziennes.
Voilà, mais sur les chaînes hertziennes, c'est le retour là, il y a depuis quelques semaines de Dr House pour la dernière saison. Et bon, finalement,
il va mourir?
ça, on sait pas.
La dernière saison, mais
et
non.
Oui, la dernière saison de Dr House. Bon, a priori, il meurt pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui meurt, mais on va le dire à 20. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se dit que, on arrive un peu au bout des choses aussi dans cette série. Donc c'est finalement pas si mal que ça s'arrête parce que bon, voilà, quand on a fait plein de maladies, enfin voilà, il est imbuvable avec tout le monde, mais au final, ça change pas.
Ça tourne en rond.
Ouais, ça a un peu tendance à tourner en rond. Et puis, bah, côté série aussi, il y a NCIS sur M6.
Oui.
Qui ne s'est pas arrêté. Souvent, les séries américaines, on a le moment où ça s'arrête aux États-Unis et puis le temps que les Français, les chaînes françaises fassent l'adaptation en français. Et donc là, pour la 10e saison de NCIS, qui marche bien en France et aussi aux États-Unis, M6 a décidé d'enchaîner directement la saison 9 et la saison 10. Ce qui impose un travail de traduction et d'adaptation assez important qui a été conduit tout au long de, enfin voilà, au fur et à mesure que ça se faisait. Et alors c'est vrai que heureusement qu'ils ont fait ça, parce que les derniers épisodes voilà. de la saison 9 étaient absolument atroces.
Le suspense.
Voilà, il y avait un suspense, enfin voilà, il y avait un tueur en série, etc., qui revenait dans la saison 10, et ça aurait été vraiment très très dur d'attendre.
Très bien. Et puis alors aussi, il y a la télé-réalité, ça, on peut pas passer à côté.
Et non,
on
peut pas passer à côté. Et on a retrouvé, après quelques années aussi d'arrêt, sur les chaînes hertziennes notamment, les anciennes chaînes hertziennes, parce que maintenant, ça n'existe plus. On retrouve deux émissions télé-crochet, donc Nouvelle Star et Star Academy, qui reviennent sur D8 et Energy 12. Et donc, ce qui est un peu marrant finalement, c'est ce passage des chaînes historiques à la TNT. C'était pas forcément.
Oui, c'est vrai, c'est surprenant.
Voilà,
j'ai du mal à suivre parfois.
Des concepts qui ont été qui ont été développés par TF1, par M6, qui se retrouvent sur D8 et sur Energy 12. C'est quand même assez paradoxal, sachant qu'ils avaient été arrêtés pour des problèmes d'audience.
Voilà, est-ce qu'ils évoluent un petit peu? Est-ce qu'ils changent? Ils se renouvellent?
Ben oui, alors ça se renouvelle un peu sur Nouvelle Star. J'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup voir ces programmes, mais a priori Anne-Marie les a vus.
Elle va nous dire tout ça. Une émission.
Mais voilà, mais a priori il y a des très très bonnes voix, donc un bon casting qui porte vraiment le programme.
Mais généralement, c'est vrai que la Nouvelle Star, cas comme ça, c'est ce que je remarque. Je trouve que il y a toujours eu des artistes quand même, des gens qui sortaient un petit peu du lot. Alors que Star Academy, c'est vraiment l'émission de télé-réalité où on les voit prendre leur douche, manger. Bon, c'est quelque chose, nous en tout cas, on en a un petit peu rien à faire, peut-être que les adolescents adorent, puisque apparemment ça marche en plus, ça marche. C'est vrai que Star Academy, c'est une émission télécrochée, mais pas vraiment télé-réalité, puisqu'on les voit juste une fois par semaine, et on les entend chanter. Et sincèrement, c'est vrai que je trouve que cette année, il y a plutôt eu un bon casting, c'est plutôt sympa. J'apprécie.
Ouais. Alors après, c'est vrai que voilà, ce que tu disais sur effectivement le côté très télé-réalité, loft, enfin entre guillemets de Star Academy, fait que enfin certaines parties comme par exemple les cours, il y avait des cours de chant, des cours de théâtre, finalement sont beaucoup moins présents à l'antenne que dans les précédentes versions sur TF1 autrefois. Donc ce qui finalement ça perd finalement un peu de l'intérêt thématique, et on est plutôt effectivement là, on rentre complètement dans le genre télé-réalité. Voilà, et puis après, il y a un truc à noter qui est quand même assez fort, c'est que un des candidats qui a été retenu dans Star Academy fait partie de ceux qui ont été rejetés et dont ils se moquent sur Nouvelle Star. Donc ça, c'est quand même assez fort, quand même. C'est-à-dire que ça montre aussi le niveau.
Oui, voilà, le niveau n'est pas du tout le même. Je pense que Star Academy, ils prennent plutôt des personnalités. Ça veut dire des personnes qui vont avoir un fort caractère, qui vont pouvoir, se mettre à nu devant les caméras. Alors que Nouvelle Star, ils vont vraiment prendre un candidat pour sa voix, et non pour le potentiel de se mettre tout nu ou autre chose, quoi.
Voilà. Bon, après, là, ils se mettent pas tout nus, mais ils se défoncent, et ça, c'est un retour bientôt, c'est le 4 février. C'est le retour de Top Chef sur M6.
Yes. Oh, super.
Voilà. Ça, c'est vraiment une super émission. Enfin, ça donne tellement envie.
Oui.
C'est magnifique.
Ça donne faim.
Oui, oui. Et c'est tellement plus agréable, je trouve, que Masterchef, où finalement, ils se font engueuler. Voilà. Donc, c'est vrai puis on sent que, la différence aussi, c'est que ce sont des professionnels.
Le niveau n'est pas le même c'est sûr.
Bon, cela dit, le jury, est-ce que c'est toujours le même? Parce que ça rigole pas quand même.
C'est le même jury. On retrouvera Guylaine Arabian, Christian Constant, Thierry Marx et Jean-François Piège, donc ils seront là.
On a hâte.
Ouais, Il y aura, c'est toujours Stéphane Rothenberg, mais a priori ils ont viré la potiche qui lui refourguait d'année en année.
Moi, je vais bien faire la présentatrice. Il n'y a pas de souci ici.
Tu crois qu'on a le droit de goûter?
Peut-être.
Ouais, pourquoi pas? Ouais, ça vaudra le coup d'essayer. Donc voilà, le début c'est lundi 4 février à 20h50 sur M6.
Bon, on y sera.
Bon, et puis alors sinon, il y a des infos, il y a aussi des nouvelles émissions.
Mais oui, bah, sur les infos, il y a un grand changement sur A3 qui va bouleverser à partir de mars la grille de France 3, puisqu'il va y avoir un grand soir 3 et que les émissions de deuxième partie de soirée sur France 3 du lundi au jeudi vont être supprimées pour avoir justement ce grand soir 3. Donc ça fait partie des économies qui sont imposées à France Télévisions. Et donc ils ont décidé de développer un nouveau soir 3, un grand soir 3 d'au moins une heure, compte 25 minutes actuellement, avec des infos nationales, des infos régionales, puisque c'est la force du réseau France 3, et puis aussi un talk, une partie de débat, comme on voit souvent aussi justement dans ces créneaux de fin de soirée sur les chaînes Tout Info, sur iTélé, sur BFM, où on a ces éditorialistes qui viennent un petit peu débriefer l'actu. Et donc, pour incarner cette partie talk, c'est Louis Laforge, donc le présentateur de Des Racines et des Ailes, qui revient, effectivement, il a présenté le journal il y a quelques temps, et qui revient donc à cet exercice du journal. Le journal, les actus sont toujours incarnés par Patricia Loison, donc qui a cette entrée-là, sachant que c'est aussi un journal qui a une connotation très ouverte sur le monde, du fait de son positionnement relativement tard dans la grille horaire. Ça a aussi une possibilité de prendre en compte aussi l'actualité de peut-être un petit peu plus largement, par exemple, notamment des États-Unis, puisqu'on est un peu plus tard, un petit peu plus tard dans la journée.
Un petit vent de fraîcheur aussi sur la chaîne,
je pense que ça peut faire quelque chose d'assez sympa. Il faudra que, sans doute, qu'ils inventent un ton pour cette partie talk qui nécessairement est un peu différente d'un journal d'info. Mais je pense que ça peut être assez intéressant. C'est vrai que on voit beaucoup ces émissions se développer avec C'est dans l'air, beaucoup. C'est effectivement des programmes qui coûtent pas très cher à produire, mais qui peuvent parfois être très intéressants si les invités autour de la table sont réellement compétents.
Voilà. Après, il faut voir la pertinence aussi des invités. Bon, généralement, ils se trompent.
Ouais,
puis ils ont peut-être aussi l'occasion de parler un peu plus longtemps, un peu plus longuement, d'évoquer des choses plus complexes.
Oui, voilà, c'est ça. C'est de débattre sur des sujets un peu plus de fond en lien avec l'actualité. Je pense que c'est toujours intéressant de donner des éclairages un peu plus poussés que ça peut être dans un journal de 20 minutes comme on l'a habituellement. Alors après, côté actu, mais là, actu sportive, sur France 2, c'est un nouveau Stade 2. Alors, ils ont relooké le décor, mais ils ont surtout relooké le présentateur. Et ce n'est donc plus Lionel Chamoulot, il le trouvait plus tout à fait au goût du jour. Et ils l'ont remplacé par une ancienne judokate de haut niveau, Céline Géraud, qu'on avait vu aussi dans de la télé-réalité à une époque, et puis aussi en tant que journaliste sportive. Et donc elle revient incarner ce nouveau Stade 2, bon, qui reste à la même heure, toujours le dimanche, avant Michel Drucker en fin de journée. Bon, voilà, c'est un peu le condensé, le rendez-vous magazine ouvert un peu à tous les sports sur le service public. Bon, voilà, c'est
avec la touche féminine de la présentatrice.
Et c'est vrai que elle n'était jusqu'à présent que deux femmes dans l'équipe des sports de France Télévisions. Donc c'est vrai que incarner un rendez-vous hebdomadaire qui est vraiment une vitrine pour ce service, c'est quand même assez intéressant d'avoir cette offre là.
Parlons musique.
Oui, parlons musique, et c'est de cette saison, même si d'abord il y aura, on le verra avant le concert 48e de cœur ici en Lozère.
48 de cœur, effectivement, de coeur. Le dimanche 17 février à 15h au Théâtre de Mende.
Et que vous pourrez sans doute entendre sur 48FM.
Une info exclue.
Ouais, elle sera peut-être plus exclusive quand cette émission sera diffusée parce qu'on vous l'avoue, cette première émission est enregistrée. Mais voilà. Non, donc effectivement, je vais vous parler du concert des Enfoirés. On a appris, effectivement, il a été enregistré il y a quelques jours. Là, c'est en train. Donc pour vous qui l'entendrez dans quelques jours, ça sera dans le passé. Mais donc après plusieurs années en province, le concert revient à Paris, à Paris-Bercy. Donc ça va être un grand moment, et ça permet aussi à certains artistes de venir, ce qui n'était pas forcément le cas quand ils étaient en province. Bon, voilà, il y a eu différents tours. Bon, voilà, l'année dernière, je crois qu'ils étaient à Lyon, l'année d'avant à l'Arena à Montpellier. Bon, c'est vrai que bon, ça permet différentes choses, mais ça permet aussi aux publics locaux d'y accéder. Mais je pense que c'est plus rémunérateur d'être sur Paris parce qu'ils vont faire plus de concerts et surtout, ils auront plus d'artistes qui seront présents. Et voilà, et donc il y en a certains qui font leur retour.
Et est-ce que tu peux nous dire les petits nouveaux ?
Oui, ben oui, donc les trois nouveaux, c'est Tal, la chanteuse dont on n'arrête pas de parler de partout en ce moment.
Oui, qui fait un duo avec Matt Pokora, je crois, sur Envole-moi. Génération Goldman, Guillaume, Génération Goldman.
Je n'ai pas regardé Génération Goldman. Voilà. Voilà, donc Tal, et puis Mika, donc là, voilà, tout son univers très pop, très sympathique, qui sera aussi donc dans les restos. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, ça risque d'être
bizarre. Faudra que ça soit aigu, hein, de toute façon, au niveau des chansons, hein, là, c'est sûr que...
Voilà, et puis forcément, il y a aussi toujours des personnalités qui ne sont pas chanteurs à la base. Et donc, c'est Yannick Agnel, le nageur, je sais plus, quadruple, quintuple, médaillé, au JO à Londres cet été, qui sera du casting. Voilà, et puis donc ceux qui reviennent, qu'on n'avait pas vu ces dernières années, Michel Larocque, Pierre Palmade, Patricia Cass, Morane, Natacha Saint-Pierre,
Morane,
Christophe
Willem, comme par hasard,
Gad Elmaleh, voilà.
Morane, rappelons quand même qu'elle est jury dans La Nouvelle Star, donc bon, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil, à faire un retour, un petit comeback.
Oui, bon après c'est quand même diffusé par TF1, donc je sais pas, peut-être ça aurait pu poser problème. Hein,
tout à fait.
Mais bon, je pense que le côté caritatif a fait que TF1 n'a pas imposé non plus de choses.
Ah, caritatif, mais pas tous les ans, voilà, quand on revient
c'est sûr,
sur scène, ouais. N'est-ce pas? Et puis sinon, on va peut-être finir avec un coup de cœur, Guillaume.
Ah oui, alors un énorme coup de cœur pour la parenthèse inattendue de Frédéric Lopez.
Le coup de cœur, c'est pour Frédéric ou pour
l'émission?
Non,
c'est pour l'émission.
Ah, parce que moi, c'est pour Frédéric.
Oui, non, mais c'est tout à fait possible aussi pour Frédéric, hein, y a aucun problème. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce programme.
Si.
C'est le mercredi en deuxième partie de soirée. Et moi j'ai trouvé ça très sympa, sans doute un peu bobo dans sa façon d'être, dans ce type de programme, mais moi je trouve que c'est très intéressant de recevoir trois invités qui ont rien à vendre, de se prendre finalement un peu de recul parce que ils vont dans une maison dans la campagne, voilà, ils se posent, ils font à manger, ils discutent, voilà, je trouve que c'est très sympa, c'est très positif,
plein de bons sentiments, mais je trouve que ça fait du bien aussi. Voilà, on évite d'être méchant, cassant. On est dans un monde où il y a beaucoup de violence et la crise. Et je trouve qu'effectivement, ce genre de petite parenthèse inattendue, ça fait du bien et ça redonne le sourire.
Ouais, et puis on découvre plein de choses sur les gens. Enfin, voilà.
Et c'est pas du voyeurisme, hein. C'est juste des vedettes qui se mettent à nu.
Oui.
Et je trouve que c'est très beau.
Et c'est là où effectivement Frédéric Lopez a un talent, énorme, puisque réussir à amener cette ambiance et à faire s'exprimer les gens, je pense que c'est effectivement assez réussi. Voilà.
Très bien. Bah merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, pour tes explications.
Ces infos.
Voilà, donc on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission actuelle, et lui sur 48FM. Alors, je ne sais pas, on va peut-être préparer le thème suivant avec Anne-Marie. Qu'est-ce que tu nous proposes comme musique? Ça nous mettra en bouche pour ce qui va nous arriver tout à l'heure.
Eh bien, je vous propose La Liste de Rose, une chanson qui parle d'amour tout en légèreté.
Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer. Pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Je t'ai tout par les fenêtres, t'aimais de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien trouvé mieux à faire, et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Soit j'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je peux. Garder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con, avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux.
Elle
et lui. Bien, on se retrouve sur 48FM pour Actuel et lui, et c'est la troisième partie de cette émission, troisième partie avec Anne-Marie qui va nous dire un petit peu ce qu'il y a dans la presse, et plutôt pas dans la presse, c'est pas le Figaro ou,
oh, ça reste ou, la presse
ou l'Humanité, hein, voilà, non, on est plutôt dans quelque chose d'un peu plus
de léger,
un peu plus léger, un tout petit peu fait. Plus, voilà.
Voilà, c'est la presse mensuelle féminine.
Bon, alors voyons ça.
Alors voilà, je voulais vous parler du mois où les amoureux se bécotent sur les bancs publics, le mois où les ventes de roses rouges explosent, le mois où on adore écouter en boucle « Que je t'aime » de Johnny Hallyday tout en susurrant à l'oreille de son chéri « Tu es le soleil de ma vie ». Bref, vous l'avez compris, je voulais vous parler du mois qui célèbre le 14 février, à savoir le jour de la Saint-Valentin. Et oh surprise! Enfin, oh, mauvaise surprise, je me suis aperçue que la presse féminine n'a pas misé sur la fête des amoureux pour ses unes de février. Juste quelques conseils cadeaux à piocher par-ci par-là, comme dans le Cosmopolitain, mais j'y reviendrai par la suite. Non, ce qui m'a le plus impressionnée, voire consternée, c'est de constater qu'en plein hiver, les journalistes préfèrent parler du poids de ces dames. Jolie façon de faire comprendre à la gente féminine que l'hiver ne doit pas être synonyme d'embonpoint. Sauf que, de vous à moi, Aurélie, Guillaume, pour être franche, on aime bien quand hiver rime avec tartiflette, raclette, tartelette, au chocolat de préférence. Bref, que des plats caloriques en hête, eh bien, on a tout faux. Selon le mensuel Prima, le nouveau régime du docteur Jean-Michel Cohen promet de nous faire perdre 3 kilos pour rester en forme tout l'hiver. Pour résumer sa pensée, la tartiflette aux oubliettes, place aux courgettes.
Et donc comme quoi le être, ça marche pas hein, pour les courgettes. Hein.
C'est pas faux.
Oui, mais alors pourquoi ce genre de conseil en plein hiver? D'habitude, les régimes, c'est plutôt avant l'été, le maillot de bain, tout ça.
Eh bien, justement, on comprend vite l'importance de perdre ces 3 kilos en trop. Monsieur Régime, alias le docteur Cohen, fait la promotion de son nouveau livre « Mincir à petit prix ». Et moi, j'ai envie de vous dire, manquerait plus qu'on maigrisse en se ruinant. Alors, cette promesse des moins 3 kilos mérite quand même quelques explications. La journaliste demande au docteur Cohen quel est donc l'objectif de ce livre et à qui il s'adresse. ce à quoi il certifie, ce livre, c'est une réponse à la crise. Ce sont les banquiers qui vont être contents. Bref, je continue de le citer. Je démontre qu'un régime n'est pas nécessairement onéreux. On peut faire des économies non seulement au moment de l'achat, en choisissant des aliments de saison, donc moins chers, mais aussi grâce à une cuisine astucieuse qui évite le gaspillage. Avec des recettes à 1 euro par personne, le régime peut être suivi par toute la famille sans que le budget souffre. Fin de citation. Donc même les radins peuvent faire ce régime, c'est épatant.
Et avec 1 euro, on peut manger quoi alors ?
Eh bien, selon l'article Prima, pour cette somme, vous pouvez vous préparer une soupe de tomates et un croquant de chèvre frais. Pour 1 euro également, un gratin de chou-fleur à l'indienne, mais aussi une papillote de colin à la purée d'avocat. Et en dessert, non pas une crêpe au chocolat, mais une mini crêpe au chocolat. Faut pas non plus exagérer.
Ah ouais, c'est pas mal ça.
Alors, finalement, on se dit pourquoi pas. Les recettes diététiques sont plutôt alléchantes. Bien expliquées, elles peuvent être produites chez soi en peu de temps. On peut effectivement faire quelques efforts en plein hiver si c'est pour la bonne cause. Mais, parce qu'il y a un mais forcément, si vous n'arrivez pas à vous séparer votre tablette de chocolat, un peu comme moi, un peu comme toi, peut-être Aurélie aussi,
oui,
non,
ma tablette de chocolat.
Oui, la boîte.
Hein, pareil, bon. Eh ben, remontez-vous le moral en achetant le mensuel Bi. Sa une va réconcilier les maigres et les bien portantes, puisque selon le magazine, on arrête la fixette sur l'étiquette canon du 34 au 44. Et là, tout de suite, ça donne le sourire. Selon Flavie, 23 ans, qui a été interviewée, la taille ne compte pas pour elle. Je la cite. C'est l'allure qu'on a dans le vêtement qui importe. S'il est flatteur et que l'étiquette indique 44, quelle importance ? J'ai récemment pris une taille et franchement, tant mieux. Les fringues qui vont aux voluptueuses m'iront encore mieux. De son côté, Lynn, 32 ans, confie « Je suis voluptueuse et heureuse de l'être, mais quand j'ai dû prendre un 44 alors que d'ordinaire je fais un petit 42, j'avoue que l'étiquette m'est restée en travers de l'ego. Pour moi, un 42, c'est Monica Bellucci, un 44, c'est Boudin. » Allez, mesdames, soyez indulgentes avec vous-même, car le magazine révèle qu'il n'y a pas de réglementation contraignante en France ni en Europe. Donc, une marque peut décider qu'un 40 se base sur des mensurations telles que 95, 75, 95, quand une autre décidera qu'elle corresponde à un 38 ou à un 42. Chaque marque continue donc de tailler selon ses propres critères, selon le profil, l'âge de ses clientes. Donc voilà une analyse qui nous fera un petit peu mieux digérer notre tartiflette.
Oui, bah, ce qu'il faut retenir, c'est de jamais retenir sa taille et simplement d'essayer et de voir qu'est-ce qui nous va.
Ah bah tout à fait, sauf que vous, Guillaume, voilà, toi, Guillaume, tu es un homme, bah, mais nous, filles, bah, c'est vrai qu'on aime bien regarder l'étiquette. Voilà, c'est...
Oui, mais bon, enfin, les tailles...
Vous aimez bien aussi regarder l'étiquette pour l'autre chose qui est écrite dessus, non ?
Le quoi, le prix ? Ah bah, sauf si notre compagnon nous offre le vêtement.
Ouais, ben justement, compagnon, la Saint-Valentin, finalement, tu nous en parles pas, là.
Eh bien, si, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peu d'articles sur la fête des amoureux en ce mois de février, à croire que Cupidon ne fait plus recette auprès des journalistes. Je vous ai quand même dégoté un article dans le Cosmo intitulé « Saint-Valentin, j'ai tout donné ». Un article assez amusant où on apprend ce que certains hommes ont offert à leur douce l'an dernier. Cela va peut-être d'ailleurs vous donner des idées à vous, chers amis auditeurs, ou à toi, Guillaume, hein, je ne sais pas. Alors, quelques exemples. Karim, lui, l'an dernier, a cuisiné comme un chef pour sa tendre. Adrien, lui, le phobique du poil, a dit OK à sa copine pour un chat. Quant à Xavier, il a conçu une bague unique à sa copine. Et sinon, Pierre a créé un livre photo à sa petite pupusse. Mais mon passage préféré reste celui de Fabien, qui a dîné avec sa belle-mère.
Wow. Ça c'est sympa, c'est sexy, c'est Saint-Valentin.
Voilà, c'est Saint-Valentin. Mais laissez-moi vous en lire quand même un extrait, que je le trouve extra. Donc il nous dit « Je déteste ma belle-mère. Depuis que je la connais, elle ne cesse de me dire que je ne suis pas assez bien pour sa fille. Nos rancœurs deviennent plus profondes. Finalement, c'est la rupture. » Avec la belle-mère, hein, pas avec la fille. Donc, le soir de la Saint-Valentin, il invite sa tendre au restaurant. Et qui se pointe au dessert ? Je vous le donne en mille, la belle-mère. Sur invitation du gendre. Ce geste a eu du bon puisque Fabien raconte que depuis, la situation n'est pas parfaite, mais je poursuis mes efforts pour que la réconciliation avec ma belle-mère soit durable. Une situation, voilà, assez cocasse, que j'avais envie de vous faire partager.
Oui, mais justement, Anne-Marie, quand on n'a pas de belle-mère, Et donc, quand on n'a pas d'amoureux, on fait comment ?
Justement, vous, célibataire, il vous reste encore quelques jours avant la Saint-Valentin pour trouver la perle rare. Elle se trouve peut-être derrière vous, à côté de vous.
Dépêchez-vous, là, il reste plus vraiment beaucoup de temps, là.
Mais oui, mais on sait jamais.
Justement.
Peut-être qu'elle est même sous vos yeux, cette perle rare. Bon, vous restez dubitatif ou dubitative, mesdames ? Alors lisez le mensuel Biba. L'article Objectif Rencontre va rebooster votre morale. Quelques exemples à glaner par-ci par-là, comme on tape large. Donc, même s'il est un peu trop grand, un peu trop jeune ou un peu trop bedonnant, on tente. Ou bien, on en profite. Jules potentiel, nouveau pote, relation de boulot, sex friends. Bref, on profite de ce nouvel état d'esprit pour élargir son réseau. En clair, laissez parler vos envies. Alors, en ce mois de février, avec ou sans Valentin, avec ou sans tablette de chocolat, régalez-vous.
Merci Anne-Marie, mais moi je trouve que là la fin là c'est pas super quand même, parce que au final c'est faites tout pour être avec quelqu'un pour la Saint-Valentin, et puis même s'il est nul et que au final vous allez le larguer le 15 quoi. C'est un peu triste quoi.
Non,
finalement.
Non. Bah si, mais ça, moi c'est pas une conception de l'amour. Non, mais je pense que en fait quand l'article nous dit qu'effectivement bon s'il est un peu trop grand, un peu trop jeune, un peu trop bedonnant, même avec de l'acné, qu'est-ce qui est le plus important, en fait? C'est la beauté intérieure, non? C'est pas la beauté extérieure. Donc, je pense qu'il faut savoir relativiser aussi. Et même si vous ne trouvez pas la perle rare pour la Saint-Valentin, parce que, oh, c'est pas grave, au pire. Mais voilà, c'est comment retrouver quelqu'un. Il faut effectivement élargir ses réseaux, donc sortir. Et puis, ne pas hésiter à creuser. Voilà, quand il y a une personne qui n'est pas forcément jolie, attirante, il faut creuser, non?
Oui, bah après nous avoir culpabilisé là avec tes régimes et tout ça, tu penses qu'on a envie de wouh, hein? On est en février,
mais non,
tu nous parles de régime.
Et puisque alors après, on est canon du 34 au 44, voire 54, 64, peu importe, le chiffre ne compte pas. Non, c'est vrai par contre que pour les régimes, moi j'ai trouvé ça un petit peu surprenant qu'on en parle dès le mois de février. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'avoir des conseils régime au printemps, parce qu'on sait que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va se mettre en maillot de bain. Là, au mois de février, encore une fois, on préfère manger, je sais pas, moi, une bonne raclette ou un chocolat chaud, un pot-au-feu, effectivement. Bon, on n'a pas envie de se restreindre et de manger une petite courgette par-ci par-là, une salade.
Oui, puis en plus, la courgette, la tomate, c'est quand même pas trop de saison au mois de février.
Exactement, c'est pas de saison et c'est là où c'est un peu compliqué. Enfin, je me demande quelle est la pertinence, effectivement, de ce livre du docteur Cohen. Qui nous fait la promotion effectivement d'un régime simple, pas cher, avec des fruits de saison, des légumes de saison, sauf que la tomate en hiver, elle pousse pas ici quoi. Enfin, la tomate c'est quand même d'été, donc et effectivement lui-même est contradictoire dans ses propos. Je sais pas trop quelle est la pertinence de son livre. Si ce n'est voilà de faire vendre encore une fois des magazines pour nous dire voilà nous femmes il faut qu'on maigrisse et on sera heureuse après. Bon, est-ce que le bonheur se trouve dans notre assiette?
On répondra à cette question peut-être lors de la prochaine émission de Actuel et lui, puisque c'est terminé pour aujourd'hui. Et juste avant de se quitter, on écoute Adrienne Poli, Je veux un mec.
Non, je veux pas me lever, m'habiller, je veux un mec, je veux un mec. Oui, c'est bête, m'allonger pour la vie, ça m'embête, je veux un mec. Non, je veux pas un ciné, rigoler, je veux un mec, je veux un mec. Ouais, je m'entête, mes beaux airs, ça m'inquiète, je veux un mec. J'en ai rien à foutre, tes amis, j'en ai rien à foutre. Ton boulot et ta gym, ton mal de dos, ta clim. Ton âme, j'en ai rien à foutre. Ta femme, j'en ai rien à foutre. Ton psy et tes horreurs. Écoute-moi, oui, je vais pas me calmer. Oui, je vais continuer. Oublie les fleurs, je serai pas l'heure. Attends-moi, des illusions, j'en ai pas lourd. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs.
ralenti. Ton ex qui te hante, ta moto qui te plante. Du beau temps j'en ai rien à foutre, de la pluie j'en ai rien à foutre. Je veux un mec, pas du vent. Écoute-moi, non je vais pas m'en prendre en main. Me calmer, prendre un petit bain. Oui je vais rester dans mon coin. Regarde-moi, ton F5 j'en ai rien à foutre. Ton argent encore moins. Mais si tu crois pouvoir t'en foutre, si t'es un mec, rejoins-moi. Je veux un mec. Je veux un mec. Ouais, 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 ouais. Je veux un mec. Pas des hommes qui m'assaillent. Je veux le mec. Qui me taille, viens le mec. Viens le mec. Toi qui veux me faire changer d'air. T'en peux plus, tu veux me faire taire. Avec tes lèvres, si t'en es un. Si t'es un mec, réponds-moi. Ton chapeau, j'en ai rien à foutre. Ton blouson, j'en ai rien à foutre. Tes vêtements, tu peux te les foutre. Sur le canapé ou ailleurs. Enlève les vitres, j'ai peur. Sur le canapé ou ailleurs. Viens. J'en ai pas lourd, mais à quoi bon faire des discours? Je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Viens, 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 le mec. Dans mon lit plein d'envie, viens me bander, chérie. Dans mon lit où je crie.
Donc rendez-vous normalement dans 15 jours pour cette prochaine émission. Et voilà, ben vous pouvez réagir, nous dire comment vous avez trouvé cette émission, nous proposer des sujets. Vous avez déjà découvert certains domaines de d'intérêt de des trois personnes autour de la table. Donc n'hésitez pas à
ça,
nous.
Ça ne résume pas non plus à ça.
Non, mais non, mais j'ai dit quelques. Ah, c'est bon quand même. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur 48FM pour un nouveau numéro d'Actuel.
Et lui.
Actu.
Elle.
Et lui.
Actu.
Actu.
Actu. Elle et lui.
Elle.
Lui. D'Actuel.
Et lui. Oh.